France Culture.
Il y a dans la nuit non seulement des possibilités d'expérimenter ce que le jour ne permet pas, mais aussi des possibilités de penser et je dirais même de voir paradoxalement des choses ou des lumières que le jour masque.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux premiers romans dans votre book club aujourd'hui, pas mal de substances illégales, des petits, des grands feux, la puissance des addictions, des saisons qui se succèdent, des fêtes, des points de deal, des tests de grossesse positifs, des avortements, un chaman, un duende, un hôpital psychiatrique et la nuit. La nuit comme agent transformateur, tant des rencontres, de dévoilements et d'oubli. Deux premiers romans, donc deux voies nouvelles qui s'avancent vers nous et ça fait toujours plaisir, ça rend toujours curieux. Olmo publie Aden ou la transparence de l'air et Mathilde Anzelin publie La saison des bêtises, ils sont nos invités. Vers 15h50, la journaliste Nicole Vulzer nous parle des globe-trotteurs de l'édition. C'est ainsi qu'elle appelle celles et ceux qui voyagent de foire du livre en foire du livre pour y signer notamment des contrats de traduction. Et en fin d'émission, on joue à chercher trouver de la musique dans les livres. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Olmo.
Bonjour.
Votre roman Aden ou la transparence de l'air apparu aux éditions du Nouvel Attila. Soyez le bienvenu dans le Book Club.
Merci.
Bonjour Mathilde Anzelin.
Bonjour.
Votre roman s'appelle La saison des bêtises. Il est apparu aux éditions Les Avrils. Bienvenue dans le Book Club.
Merci.
On est le 11 mars aujourd'hui et le Centre National du Livre organise partout en France une grande manifestation qui s'appelle le quart d'heure de lecture. L'idée, c'est de placer la lecture au cœur de nos quotidiens et pour fêter ça, nos auditeurs et auditrices ont été très nombreux de la communauté du Book Club et nombreuses à partager une minute de texte lu à voix haute sur le compte Instagram de l'émission. Ils peuvent encore le faire, elles peuvent le faire, on va archiver tout ça, on va continuer à partager toute la journée jusqu'à ce soir, peut-être même jusqu'à demain matin. Il suffit pour ça d'identifier le Book Club Culture sur vos stories et vos posts. Un grand merci pour vos participations. Jour du quart d'heure de lecture du CNL me pousse à commencer ce questionnaire de lecture puisque c'est d'abord ça qu'on fait dans le Book Club, faire le portrait de nos invités en tant que lecteurs et lectrices, par vous demander si vous avez un rapport quotidien à la lecture, Olmo.
Moi, oui, j'ai un rapport quotidien à peu près tous les textes. En général, je lis pas mal de philo, pas mal de littérature.
Vous lisez tous les jours ?
Tous les jours, oui.
Et plus d'un quart d'heure par jour ?
Plus d'un quart d'heure en général. Je trouve le temps dans les transports, ou je trouve le temps dans les cafés, ou là où je suis pour sortir un livre en général.
Et ceci depuis l'enfance ?
Depuis l'adolescence, certainement, oui. Depuis l'adolescence, j'ai eu un accrochage avec certains auteurs très fort et ils m'ont ouvert des horizons. Et je me suis senti très très bien dans beaucoup de monde qui se déployait à partir de l'adolescence. Ouais.
C'est beau cette idée d'avoir un accrochage avec des œuvres et des auteurs et des autrices. Vous pensez à quelqu'un en particulier ?
Rapidement, je crois que je suis rentré très rapidement chez Camus. Camus m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. De Noces, particulièrement, ces textes littéraires. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui vibrait dans l'écriture et quelque chose qui était... très profond, très fort, je me suis tout de suite senti bien.
Et par exemple, chez Camus, vous avez pu être tout à fait dans Nos, qui est un texte assez court, où il est question du soleil notamment, de l'Algérie, ouais. De Tipaza, mais sur des textes qui peuvent être plus romanesques ou plus théoriques, ça a ouvert tout Camus pour vous ?
Ça m'a tout ouvert d'un coup, oui. Ouais. Et tout de suite, je suis allé voir évidemment L'Étranger, puis La Chute, et puis je suis rentré dans le mythe de Sisyphe quand j'étais un tout petit peu plus vieux, vers 16-17 ans, et j'étais embarqué.
Accroché.
Voilà, accroché.
Est-ce que vous vous souvenez comment vous êtes retrouvé avec Nos de Camus dans les mains
je
à l'adolescence
crois, je crois que je parcourais les bibliothèques municipales et je prenais un peu tout ce que je voyais, tout ce qui brillait un peu, tout ce qui m'attirait comme titre. Et donc je crois que c'était j'ai beaucoup fréquenté les bibliothèques municipales.
Et vous le faites encore
Moi maintenant.
Mathilde Anzelin, ça prend quoi comme place dans votre quotidien aujourd'hui la lecture ?
Alors c'est quotidien aussi. Ça dépend un peu des périodes. Il y a des périodes où je lis moins, d'autres où j'essaye de m'y astreindre plus. Il y a aussi des moments où je m'astreins pas du tout. C'est un plaisir, c'est même une nécessité parfois. Notamment, ça m'aide. Le moment de la lecture, c'est toujours le moment de se coucher, en fait. Ça permet de couper avec le reste, d'être dans un espace à soi, un espace de mots.
Vous aussi, vous faites ça depuis longtemps ?
Ah oui, depuis l'enfance aussi. Depuis l'enfance aussi, j'ai commencé assez tard à lire. Je devais avoir 7 ans, mais à partir du moment
techniquement,
où...
vous voulez dire ? ou
oui, oui, techniquement. Non, vraiment, la capacité de lire était assez tardive au point que mes parents étaient un peu inquiets, même à un moment donné. Et puis, à partir de là, ça s'est vraiment enclenché. J'ai pris le pas et puis j'ai compris l'intérêt de la lecture, la plus-value de la lecture par rapport à d'autres médiums d'évasion que j'avais. Je regardais énormément de films, je regardais la télé, ma grand-mère était conteuse, donc elle me racontait beaucoup d'histoires, j'écoutais aussi des livres audio. Et je trouve qu'il y a vraiment dans la lecture, j'allais dire dans l'écriture,
ouais,
mais c'est totalement lié. Mais il y a vraiment dans la lecture une dimension particulière qui me touche beaucoup, qui me parle encore.
Mais alors justement, je pense que comme cette manifestation du quart d'heure de lecture, c'est aussi une vocation d'encouragement, c'est aussi, si on le prend moins positivement, le constat que c'est un tout petit peu moins fait par les jeunes générations, ce rapport à la lecture. Je trouve ça chouette que vous mentionniez la plus-value de la lecture sur d'autres médias d'évasion, parce que je pense que c'est aussi la question de la concurrence, de ce que peuvent se mettre sous la dent en termes d'imagination des jeunes gens. Vous diriez que c'est quoi, Mathilde Hanzelin ?
Ah, c'est totalement ça, et moi je pense que je voyais pas l'intérêt de lire à cause de tous ces autres médias. Je comprenais pas l'intérêt. Et en fait, j'ai vraiment trouvé, j'ai apprécié l'intimité que la lecture permettait, parce qu'en fait, bon bah, maintenant c'est plus vraiment le cas, mais à l'époque, la télé, elle était dans le salon, ma grand-mère, enfin qui me racontait des histoires, c'était toujours par elle que j'avais les histoires, et la lecture, tout d'un coup, j'avais accès à ma voix intérieure, qui se déclenche au moment où on lit. En fait, on a cette voix qui se met en nous, et il se trouve que c'est la même voix que j'ai quand j'écris.
Donc ça vous a aussi ouvert cette... Enfin, en tout cas, c'est ce rendez-vous-là pour vous, quoi. Ouvrir un livre, c'est avoir une connexion avec...
avec
je reprends
soi-même.
Les mots, oui, ouais. De Neige Sino, qui était à votre micro hier et qui parlait d'un interlocuteur intérieur. C'est pas que la voix, dans son cas, mais c'est ce rendez-vous avec vous-même, en tout cas.
Oui, et puis ça permet d'avoir accès à des choses en soi dont on n'avait même pas conscience. Moi, le livre qui m'a vraiment ouvert à la littérature. Enfin, je lisais avant, j'avais lu Harry Potter avec beaucoup de passion, Roald Dahl et autres.
Je dis que vous êtes née en 1991.
Allez-y.
Comme ça se fait, voilà, pour les gens qui
Harry Potter,
vous situent un petit peu dans les générations.
Effectivement, et le livre qui m'a vraiment ouvert à la littérature, enfin un autre type de littérature où le style avait vraiment la part belle, c'est La vie devant soi.
Donc, de Romain Gary.
Ouais, vraiment que j'ai lu quand je devais avoir 14 ans et j'ai découvert tout un monde en fait. Et ça a éveillé en moi aussi, enfin en l'occurrence il parle, de, pour moi Gary parle, enfin Ajar parle de son rapport à sa propre mère dans ce livre. Et moi-même, ça a éveillé des questions en moi, des choses dont j'avais pas conscience.
Et ça les a comme révélées, finalement, à vous écouter. C'est pas mal l'idée d'un dévoilement par le détour de la lecture.
Totalement, oui, exactement.
Vous vous souvenez, vous aussi, qui vous avez mis La vie devant soi dans les mains ?
Alors.
Ou quoi ? Ou est-ce que c'était un lieu,
une bibliothèque ? Franchement, je sais pas du tout. Je me demande s'il n'était pas dans la bibliothèque de mes parents, je suis pas sûre. Ou alors est-ce que c'est ma mère qui me l'a offert, je sais pas, mais en tout cas ça fait partie de ces livres que je conseille vraiment aux adolescents, notamment avec un style vraiment très simple, très fluide, brut, presque naïf, parce que Gary imite la manière de parler d'un enfant,
parce qu'il y a un personnage central qui déambule dans la ville et qui est un enfant.
C'est ça, le narrateur est un petit garçon de 10 ans en fait, et qui a des formules hyper percutantes qui m'ont énormément marqué et qui ont, je pense, aussi marqué mon écriture.
On parlait d'avoir rendez-vous en soi-même et de la plus-value de la lecture sur les autres choses. Olmo, est-ce que vous vivez les choses comme ça ? Et si vous deviez vous parler de la lecture à un enfant ou un adolescent comme un truc vraiment chouette à faire, vous diriez quoi ?
Oui, c'est vrai que c'est une des rares occasions où on a l'occasion de rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre et d'être drainé par des images, par cette voix qui parle, qui fait écho à notre propre voix. C'est très très rare, cette intimité. Enfin, dans la vie courante, on la trouve de temps en temps, par moment. Mais c'est vrai que la lecture, on est transformé par des livres parce que justement, on a réussi à être pris par un monde dans lequel on n'aurait pas eu accès s'il n'y avait pas eu le livre, en fait. Et je pense que beaucoup d'écrivains nous donnent vraiment ce qu'ils sont dans leurs livres, parce que dans la vie courante, ils peuvent pas le faire parce qu'il y a trop de frontières, de barrières, il y a nos peaux, il y a nos voix, il y a trop de choses qui nous empêchent de pouvoir rentrer en communion comme ça. Et je pense que la lecture, c'est vrai que ça nous transforme vraiment pour cette intimité dans laquelle elle nous permet de nous inscrire, de rentrer.
Je crois pas me tromper en me disant que dans les deux livres que vous avez écrits, il y a la présence du poème et d'un poème qu'on peut échanger avec l'autre ou d'un recueil de poèmes. On est d'accord, hein? Un recueil de Bukowski de votre côté, puis un poème qu'on écrit et qu'on peut éventuellement donner, même s'il n'est pas terminé, Olmo. Est-ce que vous êtes lecteur de poésie?
Oui, beaucoup. En fait, je pense que la poésie, c'est le phare de ce qui me pousse à écrire. Je veux dire, j'ai pas de définition
comme
très claire.
Comme un horizon?
Oui, comme un horizon. En fait, je crois que mon écriture est une sorte de tension un peu électrique entre des problèmes philosophiques et la poésie. Et la prose se développe dans cet écart, cette tension qu'il y a à l'intérieur des deux. Et je sens que la prose est nécessaire pour pouvoir justement combler cette espèce d'impossibilité d'atteindre la poésie ou que le problème philosophique n'arrive jamais vraiment à... Il tourne autour du problème sans jamais vraiment... Il n'y a pas de solution en philosophie, en général.
Et vous avez lu une poétesse ou un poète en particulier?
Il y en a énormément. Enfin, Artaud me touche énormément. Même les poèmes de Bolaño, les poèmes de l'infraréalisme sud-américain me touchent beaucoup. Évidemment, toute la poésie des surréalistes m'a énormément accompagné.
Et vous accompagne encore, ça?
Et m'accompagne encore, oui, énormément. Oui.
Et de votre côté, Mathilde Ancelin, quelle place ont les poètes ou les poétesses dans votre bibliothèque?
Moi aussi, j'aime beaucoup la poésie. Pour moi, c'est un peu la littérature suprême. Et j'ai été, très marquée par Pessoa quand j'étais jeune. Plus récemment, par Anna de Noël, que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé... Enfin, grâce à France Culture, d'ailleurs. Merci France Culture. Mais que je trouve sublime. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'adorais les haïkus, la littérature japonaise. J'ai aussi été marquée par Bukowski, que je cite dans le livre. Donc oui, pour moi, la poésie est extrêmement importante.
Bon, voilà, j'espère qu'on a quand même fait en sorte là que ce quart d'heure de lecture soit de plus en plus partagé. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que, en tout cas, via le compte Instagram, ils peuvent nous envoyer une petite vidéo de eux en train de lire à voix haute pendant une minute. On va parler de vos deux livres désormais, juste après cette chanson de Malik Djoudi qui s'appelle « Épouser la nuit ».
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux premiers romans et un certain âge de la vie dans votre book club cet après-midi dans deux capitales européennes, Paris et Berlin, qui voient, comme toutes les grandes villes, circuler beaucoup de drogue. Vos personnages apprennent à aimer, à s'aimer, à oublier, à arrêter de consommer, à grandir, à accueillir l'étrange ou l'étrangeté en soi. Ce sont deux premiers romans de transformation, d'apprentissage, de marge et de mouvement. On en parle avec vous, Olmo. Votre texte s'appelle Aden ou la transparence de l'air. Il a paru aux aux éditions du Nouvel Attila et on en parle avec vous. Mathilde Hanzelin, votre roman s'appelle La saison des bêtises et il a paru aux éditions Les Avrils. Je commence par mentionner ses géographies parce que ça fait partie des plaisirs de lecture que de se retrouver plongé dans des villes. À la fois, vous le faites très différemment chacun, puis ce sont aussi deux villes très différentes. Donc, je vous propose qu'on commence par ça. Olmo, la ville de Paris et certains quartiers très précis de la ville de Paris sont organiquement présents dans le texte. Qu'est-ce qui a invité cette géographie aussi fort? Est-ce que vous avez eu plaisir à l'écrire? Et qu'est-ce que c'était comme genre d'expérience?
Oui, j'ai énormément de plaisir à parcourir la ville d'abord, puis à l'écrire parce que elle vit. Déjà, Paris est une ville qui a des strates d'agence, d'agentivité, je sais pas comment dire, d'intention, de partout, qui déborde. Et c'est vrai que ça donne un sentiment, chez moi, ça avait un sentiment très animiste, où j'ai l'impression qu'il y a tellement d'êtres qui sont présents dans les murs, sous le bitume, dans les lampadaires, c'est toutes ces intentions, rien qu'un lampadaire, ça a été créé par quelqu'un, il y a une intention qui est derrière, et donc, il y a une sorte de trace il y a une trace d'agence, il y a une trace de présence, qui est tellement forte que ça me pousse.
Aussi par l'histoire, parce que vous rentrez aussi dans la ville par notamment l'évocation du 17 octobre 1961. D'un seul coup, la scène qu'on peut regarder pour sa lumière, pour son mouvement, pour ses bateaux, et comme je le fais tous les jours avec mon immense joie, je suis d'accord, vous y pensez aussi pour bien les sûr. Corps qui ont été jetés par la police en octobre 61, pas repêchés, cadavres laissés à l'abandon. Oui. Ça devient aussi ça.
Ils sont présents, bien sûr, ils sont présents partout dans la ville, et on peut les sentir en marchant. Et c'est vrai que ça met dans une sorte de légère transe dans laquelle quand on marche dans cette ville, on est toujours un peu à côté de nos pompes, d'une certaine manière. On est juste un peu autre part. Et c'est vrai que ça, j'avais envie de le... Dès que je suis arrivé à Paris, parce que je suis pas parisien, dès que je suis arrivé à Paris quand j'avais 18 ans, ça m'a touché, en fait, l'épaisseur de présence qu'il y avait dans cette ville.
Absolument. Et puis, il y a autre chose que vous faites au-delà de rendre ces strates urbaines, historiques, de présence, d'intention, comme vous dites. C'est parfois la description minutieuse de quartiers très précis, notamment le sud Pigalle ou autour de Barbès, enfin des quartiers. Vous le faites, entre autres, par l'organisation du deal, mais pas que, aussi par des boutiques, par des restaurants. Et ça devient un zoom assez minutieux dans le tissu qu'est la ville. Ça me fait penser, là, juste en l'évoquant, à un livre de Thomas Clerc qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le 18e arrondissement et qui permettait ce genre d'expérience.
Oui. Bah, qui habite, enfin, à qui appartient le quartier? Il appartient à ceux qui y vivent, qui le transforment, qui y trafiquent, qui font leurs petits deals, qui s'arrêtent pour parler à un boulanger. En fait, le quartier est plein de ces mouvements. Et ce que j'avais envie c'est ce que j'avais envie de donner à sentir, en fait, qu'un quartier a cette, à cette énergie très particulière et à chaque fois différent. Les quartiers sont différents, ils sont des multiplicités qui s'agencent en eux-mêmes et qui ont leur propre personnalité, leur propre vie, parce que les gens y font des choses. Et c'est vrai que le Paris interlope, le Paris souterrain, le Paris des petits trafics est vraiment celui qui donne comme son de basse son rythme au quartier. Après, se grèvent des choses dessus, des mélodies, peut-être des sons plus aigus, mais cette espèce de sensation lourde que le quartier donne une certaine résonance de base, une note tonale.
Ce qui est intéressant en plus, c'est que vous n'en faites pas un sujet frontal, mais à lire votre texte, on voit bien aussi comment politiquement c'est cette basse souterraine, là, si on continue à filer la métaphore musicale, qui résiste à tout le reste qui serait le marché, l'augmentation des loyers, la violence capitaliste. Oui. Et voilà, vous ne l'affirmez pas, mais ça surnage quand même dans votre texte.
Bien sûr. Et c'est vrai que, par exemple, les migrants, les gens qui sont là, ils ont autant de droits sur le quartier que tous les autres, même s'ils n'ont pas l'appartement, le loyer. Il y a une autre manière d'habiter de manière moléculaire un quartier, de manière sur des couleurs. Il y a une manière de se sentir dans le quartier qui fait que certaines personnes y sont beaucoup plus attachés que d'autres, même, où ils sont, en tout cas, ils vivent, peut-être pas dans les mêmes conditions, je suis pas en train de mettre tout le monde sur les mêmes conditions.
C'est certain.
Mais disons que le quartier appartient à tout le monde, à tous ceux qui sont là.
En tout cas, la légitimité d'y vivre, elle n'est pas discutable. Berlin existe dans votre texte d'une toute autre manière, Mathilde Hanzelin, mais très fortement aussi. Peut-être plus qu'une géographie, c'est presque un cœur qui bat, vous en parlez presque comme un ami aussi. Pourquoi est-ce que c'était important qu'elle, Berlin, tienne cette place-là?
Je pense que c'est une ville qui tient une place très importante dans beaucoup de gens de ma génération. Je me rappelle de ce livre de Zweig, Le Monde d'hier, où il parle de Paris comme de la ville de l'éternelle jeunesse. Et moi, je me suis dit que Berlin, c'était la ville de l'éternelle jeunesse d'aujourd'hui. Alors, peut-être plus maintenant, parce que, voilà, ce livre, il se passe dans les années 2010, peut-être que maintenant, ce serait une autre ville.
Ce serait quoi, vous savez ?
Ah, j'en ai aucune idée.
Je suis jeune, Mathilde.
Bah, ouais, c'est ça. Et en fait, Berlin, pour moi, il vit dans ce livre, surtout d'une manière utopique. En fait, c'est une ville qui n'est pas totalement réelle. Et autant Paris incarne pour Victoire, donc mon personnage, la grisaille, le travail annihilant, la solitude, les inégalités sociales. Berlin représente une espèce de ville merveilleuse où elle pourrait vivre pour pas cher, où elle pourrait se laisser aller et où elle pourrait être elle-même.
Oui, donc il y a aussi l'idée fantasmagorique de ce qu'est Berlin ou ce que représente Berlin dans le temps particulier que traversent vos personnages et Victoire voilà, parce que ça zoome sur elle. Berlin et ses boîtes, Berlin et sa fête, il y a aussi ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose c'est très éculé comme métaphore, mais du cœur battant qui là aussi reprend l'idée d'une pulsation musicale.
Oui, Berlin est rythmique. Il y a un rythme dans Berlin, il y a un rythme aussi à Paris qui est un peu différent. J'ai essayé d'instaurer un rythme différent dans tous mes chapitres en fonction de où elle était. Et effectivement, Berlin a un rythme très particulier qui est lié à la fête, qui est lié à la musique, à la boîte de nuit, aux pas qui frappent sur le sol au moment de danser. Et oui, effectivement, Berlin est considéré comme, à un moment donné dans le livre, je compare Paris et Berlin en les comparant à des hommes, et donc, enfin, à des amis. Paris serait cet amant raffiné qui ne veut pas vraiment de vous et qui vous fait un peu tourner en bourrique.
Flemme.
Et pour qui vous n'êtes pas assez bien, tandis que Berlin est cet ami parfait qui vous accueille comme vous êtes et auprès duquel vous pourriez vous laisser aller. Sachant que se laisser aller, c'est pas forcément positif et Victoire le comprend aussi. Il y a aussi une dimension. Elle dit comme ce serait bien de se laisser aller, d'éteindre le courant et de se laisser glisser dans ces eaux profondes et silencieuses comme une majestueuse baleine bleue. C'est aussi un peu sinistre, en fait, comme perspective.
Ou en tout cas fort mélancolique, et ça existe d'ailleurs dans vos deux textes. L'autre point commun, c'est la temporalité, ce mot-là des saisons qui existe dès votre titre, Mathilde Anzelin, et qui est, on va dire, de nouveau souligné parce que vous chapitrez avec l'âge de votre narratrice, donc il y a vraiment l'idée du temps qui passe. Ça se passe autrement, le temps qui passe chez vous, Olmo, mais il y a vraiment aussi cette idée-là d'une transformation parce que le temps passe, notamment vous. Bah, le temps, c'est le temps de comment on oublie éventuellement un amour ou comment on traverse le manque d'un amour. Est-ce que vous voulez nous parler de la construction romanesque que vous avez choisie et de cette scansion du texte, Mathilde Anzelin ?
Alors oui, volontiers. En fait, j'ai commencé par écrire ce texte par le premier chapitre. La scène qui se passe à Berlin. Je parle de mes chapitres comme des scènes, en fait. C'est comme ça que je les ai conçus, comme des espèces de plans-séquences qui se passent dans une unité de temps et de lieu. Et donc, le premier chapitre, c'est « Toute une nuit à Berlin ». Et c'était une nouvelle à la base. C'est une période où j'écrivais beaucoup de nouvelles. J'adore cette forme. Je lis énormément de nouvelles aussi. Et j'ai eu envie de retrouver ce personnage au départ de Berlin, enfin à son retour à Paris, et de voir comment ce personnage allait évoluer sur le temps long. Et donc j'ai mis en tension ces instantanés, ces chapitres comme autant de plans-séquences, et ces ellipses qui, je trouvais, avaient l'intérêt, les ellipses, de donner la sensation que le temps nous échappe, en fait, qu'on ne se rend pas compte qu'il passe. Et pour moi, c'est totalement lié avec l'addiction, qui vous fait croire que vous êtes immortel, que
vous n'êtes pas fatigué,
que vous n'allez jamais mourir et que on se souciera demain de ce qui est vraiment important dans la vie.
Oui, et d'ailleurs la question du temps se trouve tout à fait transformée presque autant que votre personnage principal à la toute fin, parce que d'un seul coup le temps est autre chose. Votre roman se termine vraiment sur un rapport au temps qui, d'un seul coup, bah, lui ouvre... Hop là, mon livre est à l'envers. C'est pour ça que je fais semblant de faire une phrase longue pour me donner du temps. Il reste quelques heures. Le temps figé encore un peu. Le temps qu'on ne veut pas voir s'échapper et qui pourtant fait son œuvre, nous façonne, nous fait grandir, nous fait nous aimer un peu. Enfin, en attendant, elle va rentrer et tenter de dormir un peu. Plutôt que de le fuir, d'un seul coup, ça devient un agent bénéfique, ce temps-là.
Oui, totalement. En fait, pour moi, la morale, entre guillemets, de ce livre, s'il y en a une, c'est le fait d'arrêter de gaspiller le temps. En fait, l'apprentissage que Victoire fera, c'est que le temps est précieux.
Olmo, sur la manière dont le temps est intégré à la narration de votre roman, ou comment est-ce qu'il est là aussi une sorte de...
Alors, le passage structure. Des saisons, oui. Le passage des saisons était très important, ça c'est sûr, parce que c'est aussi des tableaux, des couleurs, c'est de la ville qui change. Et c'est lié à, oui, le temps est lié à l'espace. Il y a quelque chose qui se donne dans le changement de l'espace, qui donne le sens du temps. Après, oui, c'était le temps du deuil. C'était le temps d'un deuil qui s'est jamais fait, en fait.
Deuil d'un amour.
Deuil d'un amour.
D'une femme.
D'une femme. Et oui, c'était un temps. En fait, j'ai pas écrit en pensant au temps. Déjà, je savais pas trop où j'allais. un peu comme je le dis à la fin, c'est vrai, à la fin du roman, le roman s'est créé comme un peu on barate le lait. Il y a une crème qui est sortie à un moment, mais j'ai dû tourner jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se prenne. Oui, et ça m'a étonné moi-même qu'il y a quelque chose qui prenne à la fin ou d'une certaine manière. Mais oui, je suis parti avec l'idée d'écrire des sensations sur la ville, des sensations sur des gens, des scènes, et puis au bout d'un moment, ça a tourné, ça a un peu caillé, et puis ça a fait quelque chose. Ça m'a surpris moi-même. C'est vrai que le temps est venu un petit peu. Le chemin des saisons, comme ça, c'est venu naturellement, en effet.
Oui, mais peut-être aussi parce qu'il est question de deuil et qu'on dit justement qu'il y a des étapes dans le deuil et que le temps fait son œuvre ou pas, comme vous le dites, Olmo, parce qu'à la fin, on n'est pas sûr qu'il l'ait complètement fait, on est d'accord. Non. On va écouter un premier extrait de ces romans. On commence par votre livre, Mathilde Angelin, La saison des bêtises, peut-être pour parler de ces marges que vous explorez l'un et l'autre.
Voyons, quelle heure est-il ? 14h20. Victoire a la confirmation que le temps s'écoule avec une lenteur inquiétante. Les nouilles instantanées devront encore attendre. Les nouilles chaudes, salées, piquantes, rapides, réconfortantes et pas chères, dont elle a lu quelque part qu'elles ont été élues par les Japonais, invention nationale du siècle, devant les consoles Nintendo et le karaoké. Chaque année, il s'en vend des dizaines de milliards de parts individuelles. Voilà donc ce que veulent les gens. Manger seul, vite, devant un écran, sans rien préparer soi-même. Comme si les fonce-dés n'étaient pas si différents des autres. Simplement leur quintessence, dans ce qu'ils ont de triste et de solitaire. Car oui, les nouilles instantanées sont la base de l'alimentation du drogué dans son habitat naturel. Nouveaux tips pour les apprentis de la night. Toujours prévoir une ration de nouilles instantanées, sauf celle aux crevettes, en prévision du retour de soirée. Aussi sûrement qu'il faut s'assurer d'amener sa propre dope avant de sortir, pour ne pas galérer sur place, saouler tout le monde pour en trouver, appeler un dealer, poireauter des heures le temps qu'il daigne débarquer sur son scooter, le tout sans pouvoir profiter de la teuf. Puisque c'est la drogue qui fait qu'on profite. La drogue, et rien que la drogue. À tous les jeunes qui nous écoutent ce soir, prenez votre propre dope en soirée donc. Et des nouilles instantanées pour le retour. Voilà, c'était Victoire pour Fonce Tips, le podcast des Fonce Dés. Quelle bonne idée ce serait. Une radio de Fonce Dés. Des assauts de Fonce Dés, pourquoi pas un parti politique. Peut-être que ça déciderait à aller voter. Un parti de résignés, de clodos, de losers, d'alcoolos, de junkies et de fumeurs de bédos. Un parti de gens sans carte d'électeur. Un parti de prostituées et de fêtards désaxés. Un parti de chômeurs, de noceurs, d'endettés, de voyageurs, d'enfants battus et de suicidaires. Un parti d'étrangers, d'exilés, de mélancoliques et d'anxieux. Un parti de gens suivis psychiatriquement, de gens nés trop tôt ou trop tard. De personnes trop sensibles, de poètes, d'endeuillés et de misérables. Un parti de gens louches. Un parti de gens qui, comme elles, n'en peuvent plus des vainqueurs, ni des héros, et encore moins des meufs enceintes de 8 mois, posant devant leur pimpante maison de campagne, entourées de leurs mecs et de leurs chats. Pour cela, et rien d'autre, Victoire pourrait se lever à l'aube et coller des affiches dans la rue. Et leur slogan serait « On n'a pas le temps de le croire, mais il fait jour, et c'est demain. »
Alors de toute façon, moi, mon personnel romanesque, je le recrute toujours du côté des laissés pour compte. Hein, J'ai des personnages de taulards, de transsexuels, d'octogénaires, enfin finalement des réprouvés, des dominés, des gens qui souvent ont de petites vies obscures. Mais c'est parce qu'il me semble que c'est dans ces marges que d'abord que s'inventent des choses qui vont peut-être s'imposer ensuite et devenir des normes, et puis qu'on n'a rien à gagner finalement à adopter le point de vue des privilégiés et des dominants. Et du coup, finalement, le fait d'avoir comme ça des personnages, des misérables, en l'occurrence, pour des hommes qui se perdent toujours, il me semble que ça me permet de questionner et de mettre à mal des normes qui nous font souffrir.
La voix de la romancière Emmanuelle Bayamak-Tam dans une archive de juillet 2020 au matin de France Culture qui fait suite à un extrait de votre texte La saison des bêtises qui énumère le parti que pourrait défendre Victoire et pour lequel elle serait d'accord de se lever tôt. Il y a à la fois évidemment de l'humour dans ce passage et on voulait aussi faire entendre votre langue, Mathilde Anzelin, mais il y a évidemment toute la gravité de recruter le personnel romanesque, comme le dit Bayamak-Tam, gravité ou choix d'ailleurs, dans les marges. Quel sens ça a pour vous, ce monde dans lequel vous écrivez, Mathilde Anzelin ?
Alors, c'est vrai que le monde, enfin la marge et la norme, c'est des questions extrêmement brûlantes pour Victoire. Elle y fait beaucoup référence. Et pour le coup, je pense pas qu'elle, ce soit un personnage à la marge. En tout cas, elle se vit pas comme ça. Elle a un boulot, elle a un appart, elle paye son loyer. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'elle n'arrive pas à se considérer elle-même comme une droguée. Pour elle, les drogués, c'est les gens assis par terre à la sortie du métro qui quémandent pour quelques pièces. Et voilà, c'est un peu une figure épouvantail qui fait qu'elle, elle peut pas assumer sa propre toxicomanie. Et en même temps, elle a un rapport ambivalent à la marge parce que c'est aussi un état qu'elle envie. J'écris à un moment donné qu'elle envie des gens qui vivent dans des squats, qui décident de leur propre agenda, et qui se sont affranchis du regard de la société.
Parce que là, peut-être qu'elle n'est pas marginale, et vous avez raison de le préciser, parce que économiquement, mais aussi par la femme qu'elle est, elle n'est pas à la marge. En revanche, la norme lui pèse pour autant, et beaucoup de normes pèsent sur elle pour autant.
Oui, totalement. Elle est complètement écrasée par la norme, par cette société qu'elle trouve extrêmement médiocre, qu'elle méprise un peu, dans laquelle elle n'arrive pas à être elle-même, et elle a l'impression que les marginaux peuvent être eux-mêmes. Et il y a un moment donné dans le livre, dans le chapitre l'extrait que vous avez lu, c'est le premier moment du livre, je crois, où elle parle de drogue. Mmh. Avant, elle parle de dope, elle parle de produits. Elle trouve toujours un peu des subterfuges pour pas dire le mot drogue. Dans ce chapitre, elle prononce le mot drogue. Et c'est là aussi qu'elle évoque tous ces gens de la marge qu'elle aimerait éventuellement rejoindre et où elle pourrait, c'est ce que je disais tout à l'heure, se laisser aller, se glisser par terre et devenir, pouvoir devenir enfin elle-même. Mmh.
Là où aussi, peut-être une partie du texte, c'est de quitter cette illusion. Ça ne veut pas dire la défaire, ça ne veut pas dire qu'elle condamne parfaitement toutes les expériences qui sont décrites, mais néanmoins, elle chemine vers, un, la prise de conscience de sa propre addiction, deux, le paysage de drogue et de droguée dans lequel elle évolue effectivement, et trois, sans trop spoiler, mais bon, la possibilité de quitter ce paysage-là, Mathilde Anzelin, c'est pas tout le temps qu'on lit des textes qui nous permettent de s'approcher des consommations, des problématiques d'addiction pour, je sais pas, comment est-ce que vous avez travaillé tout ça, comment est-ce que c'est important pour vous de l'écrire ?
De parler de cet univers-là ? Ouais. C'est une bonne question.
C'est central quand même.
Ah bah totalement, je voulais parler de l'addiction. Je voulais parler de l'addiction, de ses méandres, de ses contradictions, de ce que ça pouvait aussi avoir de joyeux et d'émancipateur, mais comment ça pouvait aussi nous faire couler au sens propre comme au sens figuré.
Et il y a des descriptions de tripes, il y a aussi des descriptions de pratiques de consommation, et il y a la manière dont petit à petit, en effet, le curseur bouge par rapport aux produits. Le monde de la drogue est très présent dans votre livre aussi, Olmo, mais à un autre endroit, celui du deal, celui des guetteurs, celui des vendeurs, des revendeurs. Plus on s'éloigne de Paris, plus les quantités sont grandes. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du 18e de Paris, mais ça... On va aussi un petit peu du côté de Saint-Ouen. Pareil, qu'elle était, ça crée presque une nouvelle géographie dans votre texte. Quelle place ça prenait, cette idée-là ?
Oui, c'est vrai que Paris consomme et la banlieue produit, d'une certaine manière. La banlieue consomme aussi. Oui, en fait, ça permettait au personnage aussi de méandrer, de vagabonder entre les marges, entre la périphérie, enfin justement dans cette zone liminale où on n'est pas vraiment parisien, on n'est pas vraiment banlieusard, on est aux places de, porte de Clichy ou porte de Clignancourt. Oui, c'est une sorte de, ça me permettait, oui, ces allées et venues dans entre la banlieue et le centre de Paris, enfin en tout cas le 9e, ça permettait en fait de faire déambuler les personnages beaucoup et puis montrer aussi que c'est vrai que le livre est un peu un témoignage d'une transformation des modes de consommation, du trafic. Le livre se passe en 2016, il n'y avait pas encore tous les trucs internet, enfin tous les réseaux sociaux qui permettent maintenant de plus avoir à se déplacer de chez soi pour consommer quelle que soit la drogue.
Donc finalement, plus que de parler de consommation de drogue, ce qui est beaucoup moins présent dans votre livre à vous, Olmo, c'est aussi les déplacements que nécessitent et la consommation, et le deal, et la vente, et la revente, et les inégalités sociales, et la violence qui, évidemment, est sous-jacente, voire au premier plan dans le trafic de drogue.
Bien sûr, c'est les bourgeois qui consomment et c'est les prolétaires qui prennent tous les risques et qui, enfin oui, il y a quelque chose d'une
pour le dire à grands traits.
Pardon.
Pour le dire à grands traits.
Voilà, à grands traits. Oui, bien sûr, mais en tout cas, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose d'une hiérarchie. C'est très organisé, en effet, toute cette affaire de trafic, de qui. En tout cas, les personnages, l'important pour eux, je crois que c'est qu'ils ont besoin de consommer pour se sentir dans la ville, pour sentir la ville, et qu'il y a quelque chose dans la consommation à tous les étages, disons, cette consommation qui se fait à tous les étages. Chacun a un besoin à un moment de s'échapper avec une substance pour être dans la ville d'une autre manière que celle que la productivité capitaliste, journalière, nous oblige à tenir. Et je pense que chez Mathilde aussi, il y a ça, il y a une échappe. La drogue est là pour échapper à une violence du rapport social qui est créé par le travail ou la...
Et du rapport, du salariat et de l'employabilité. Voilà. Parce que par exemple, je pense à une scène, moi, que j'ai trouvée très belle, même si c'est une scène de deal et de, sur fond de tout ce qui peut être si violent dans ce trafic de drogue, mais qui est dans la banlieue parisienne, à Saint-Ouen, dans un immeuble, à un étage, et c'est un appartement qui est partagé entre des jeunes gens qui attendent juste que le client arrive et qui regardent des séries télévisées. C'est pas enviable, mais en tout cas, ils disent que eux, ça leur permet de pas être à un autre endroit d'exploitation comme leurs copains qui sont chauffeurs pour Uber
et Foodora,
livreurs de nourriture sur vélo. Dans la pièce d'à côté, il y a des enfants qui jouent. Enfin, c'est-à-dire que c'est une autre, là encore, une autre géographie, d'autres paysages qui arrivent dans le roman et c'est peu présent dans la littérature Olmo. Contemporaine, j'entends.
C'est
moi, j'avais jamais lu cette.
C'est l'attente du. C'est vrai qu'on se fait beaucoup d'idées, mais parfois il fallait juste aller dans un immeuble, trouver deux ou trois personnes qui attendaient. Il n'y avait pas de. Oui, c'est un autre rythme, une autre lenteur, une autre temporalité. C'est aussi une petite misère de celui qui attend d'avoir une drogue pour sortir de son monde qui l'oppresse. C'est une petite misère de celui qui la vend. C'est une petite misère qui est pas tragique, qui est juste là. On peut rien faire. Elle est une sorte de misère de l'attente Godot, une misère blanche, une misère grise. Je sais pas.
D'ailleurs, vous les faites absolument se côtoyer. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que sans nier les violences, les inégalités, les rapports de classe et économiques, mais en effet, dans cette scène-là, en effet, il y a ces dealers qui attendent dans l'appart et puis il y a les consommateurs qui font comme vaguement la queue dans un square en attendant d'avoir leur tour pour acheter leur dope et que c'est, en effet, comme vous dites, c'est une petite misère, quoi. C'est une petite temporalité, mais qui va là encore à l'encontre d'une vitesse de productivité. Enfin, c'est bizarre, c'est un contretemps, quoi.
C'est un ralentissement du temps, oui. Oui.
Illégal, je le rappelle. On écoute un extrait de votre texte, Olmo.
Tout s'est écroulé l'après-midi du dimanche 3 avril 2016. Cet effondrement a fait suite au trou qui avait été creusé dans mon duramen, mon bois le plus dur. Tout a commencé sur la petite place de Torcy, près du marché de l'olive où je respirais un peu d'air frais. J'ai entendu une vieille cabine téléphonique sonner, une de celles qu'ils avaient encore oublié d'enlever. Il n'y avait personne, et j'ai décroché. Au bout du fil, une voix parlait comme à contre-temps. Me dit de prendre rendez-vous chez un médecin, d'aller à l'hôpital pour que l'on m'aide. Une voix qui n'était pas extérieure, mais comme empâtée dans la mienne. Un « tu » enfoncé, une forme de langage plus intime que le tutoiement. Le langage dans ma tête essayait de décrire le mimoïde, et cette vieille chose observait le langage, et avec son langage, décrivait le langage. C'est ainsi que j'ai senti que ça essayait de communiquer. Ces structures blanches que je faisais depuis longtemps, c'était pour parler avec cette chose, très ancienne. Je ne comprends plus rien. Comment Amalia et moi avions habité ensemble une chambre? Maintenant, c'était cette chambre qui nous habitait. Nous devenions l'appartement dans lequel nous nous trouvions. Avec sa forme, ses espaces, ses objets, son atmosphère, sans plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Comme si nous étions simplement l'espace entre deux murs. J'étais au milieu de la rue, et c'est à ce moment que tout a disjoncté. Et je ne me rappelle rien.
Cet extrait de votre texte Olmo Aden ou la transparence de l'air, peut-être pour évoquer un autre aspect important de votre roman, c'est le surgissement de l'étrangeté, de l'étrange. Vous lui donnez beaucoup de noms à cette force-là. On va dire que là, votre personnage dit que c'est un moment déclencheur, mais ça plane au-dessus du texte. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelque chose?
C'est quelque chose qui se donne. Justement, quand la sensation de la ville commence à prendre forme, dans la ville, il y a quelque chose comme une inquiétante étrangeté. On est toujours un étranger dans cette ville. En même temps, c'est la ville qu'on habite, mais il y en a des millions qui l'ont habité avant, il y en a des millions qui l'habiteront après. On est de passage. En même temps, donc il y a toujours quelque chose qui plane, qui est là, qui est pas nous et qui est dans la conscience, qui est dans cette espèce de patte d'image. Il y a une phrase que le roman répète très souvent, c'est que c'est ni vraiment de la matière, ni vraiment de la pensée. C'est quelque chose qui se donne dans la sensation, mais qui est pas là. Et donc, oui, c'est d'aller creuser cette sorte de mystère qui est la voix de la conscience, les pattes d'image qu'elle traîne avec elle, d'aller creuser, d'aller comme un détective aller voir cette chose là. Alors ça s'appelle le duende. Ça, en effet, ça prend beaucoup de noms. C'est quelque chose qui prend beaucoup de forme et qui est protéiforme et qui doit, en tout cas, c'est l'objet de l'investigation du narrateur. C'est l'objet du livre d'aller regarder comment cette chose peut nous transformer.
Et dans un premier temps, puisqu'il décroche le téléphone d'une cabine téléphonique, oui. Il commence par entendre quelque chose. Ça peut aussi, si on est plus prosaïque, s'apparenter à un délire, Olmo. Oui. Mais pour vous, c'est pas que ça, ce que traverse votre personnage. Il dit même que le personnel psychiatrique qu'il va rencontrer comprenne pas grand-chose à ce qui lui arrive. C'est aussi peut-être l'incompréhension entre ce qu'il croit lui traverser et ce qu'on lui renvoie.
Oui, oui. Alors ça, c'est un lieu commun d'aller dire que dans la folie, il y a une part de vérité et de sagesse. Mais c'est vrai que ce rapport à la... Enfin, ce que les drogues permettent de faire, c'est aussi d'aller chercher dans la conscience ce que la vie quotidienne cache et qui est pourtant aussi réel quand on y est. Et donc, dans la folie, en effet, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Et qui fait perdre pied, mais en même temps, ça révèle une patte d'existence qui est parfois beaucoup plus vraie que celle dans laquelle on vit au quotidien, toutes les étiquettes qu'on a mis sur les choses, ça c'est un verre, etc. Mmh. Donc, qui permet d'aller sous ces étiquettes et d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se donne dans cette patte, qu'est-ce que c'est que cette patte d'existence, quel est son statut en fait, quoi elle est faite.
Je fais un passage très rapide, d'une part parce que le temps passe, mais aussi parce que je pense que ça a à voir. Vous parlez de l'inquiétante étrangeté de la ville, de cette chose, cette structure blanche, ce duende, la forme et l'étrangeté en soi. Il me semble que vos deux romans suivent des personnages qui petit à petit accueillent l'étrangeté en soi,
dont un bébé. Mathilde Anzelin, je crois que c'est pas complètement fou de faire ce lien-là et que la narratrice refuse d'avorter, en tout cas une deuxième fois. Et c'est quelque chose qui, on va dire, est son chemin dans ce livre. Est-ce que j'ai le droit de faire ce saut? Est-ce que ça vous parle?
De voir sa grossesse comme le surgissement d'une étrangeté?
Ouais.
Alors moi, je dirais pas ça. Pour moi, Victoire, c'est quelqu'un qui est avant tout qui se pose des questions sur ce que signifie le réel. Où est le réel?
Ça, c'est sûr. Ouais.
Et je vais revenir à ce que vous avez dit.
Je n'ai aucune inquiétude.
et non, mais parce que par rapport à ce que Olmo disait aussi, ça m'évoquait ça, que Victoire recherche le réel dans les soirées. Elle a l'impression d'avoir accès à un degré supérieur de réalité parce que les gens sous drogue se dévoilent, plus personne ne met de masque. Et Victoire, elle a un espèce d'idéal comme ça, de transparence. Et quelqu'un de très cultivé qui m'a dit que Victoire était rousseauiste. Donc voilà, je le dis.
On lui laisse.
Ça m'a fait très plaisir. Et puis quand elle compare ce monde-là avec le monde du travail, où tous les gens portent des masques, où c'est le consumérisme à tout va, elle se dit que ça peut pas être la réalité. Et il y a un moment donné, dans le livre, où Victoire, effectivement, va tomber enceinte. Et tout d'un coup, c'est comme si le réel la percutait. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se rendre compte que peut-être que jusqu'à présent, elle n'était pas dans la réalité en fréquentant ces soirées. Peut-être que la réalité, c'est ce nouveau monde qui s'offre à elle avec l'arrivée ou non de cet enfant. Et à partir de ce moment-là, elle remet tout en question et c'est la fête qui devient le monde des illusions. Mmh. Donc plutôt que le surgissement de l'étrangeté, pour moi, au contraire, c'est le surgissement du réel.
Mais ça, on va rester d'accord, parce que dans le réel, pour moi, il y a une inquiétante étrangeté intrinsèque qui fait que c'est ce contre quoi se cogne Victoire, d'une certaine manière. Victoire et les autres, et nous tous, d'ailleurs.
Alors, il y a aussi, pour moi, Victoire, c'est quelqu'un que j'ai conçu comme ne pouvant pas interroger ses propres désirs. C'est quelqu'un qui ne peut pas regarder en elle, ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'en soirée, elle adore écouter les autres se confier et parler, mais qu'elle, elle en fait une fierté. Elle ne révèle rien d'elle aux autres. En fait, elle-même porte un masque alors qu'elle aimerait que tout le monde se défasse.
Et qu'elle fantasme l'idée de ne plus le porter.
Exactement. Ouais. Et... Pardon, j'ai perdu mon fil.
Ah là, ça arrive de temps en temps. Réel, inquiétante étrangeté. Le réel, elle se cogne dessus quand elle tombe enceinte.
Elle interroge ses désirs. Pardon, oui, exactement. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas interroger ses désirs, qui les refoule en fait. Que pour moi, la drogue, c'est aussi une manière de ne pas écouter ce qui est en nous. Et de faire taire l'angoisse. Or, l'angoisse, c'est aussi pour moi ce qui va nous permettre d'avancer, de faire des choses, d'occuper son univers, en fait, d'investir le monde. Et Victoire ne le fait pas. Et le moment où elle tombe enceinte, c'est aussi l'émergence du désir, peut-être de son propre désir. Et pour moi, c'est là qu'elle va, en fait, atteindre le plus haut degré de réalité, c'est en étant en contact avec son désir.
On va écouter la voix de Manon, auditrice du Book Club. Elle vous a lu. Elle vous pose une question.
Bonjour. J'ai lu La saison des bêtises il y a quelques semaines. J'ai beaucoup aimé pour beaucoup de raisons, mais surtout pour la justesse que j'ai trouvée dans la description du passage de l'adolescence à l'âge adulte. En fait, avec le personnage de Victoire, on retrouve tout l'extrémisme de la jeunesse, avec cette idée de tester ses limites, de se mettre en danger systématiquement. Et tout au long du récit, Victoire va comme ça jouer avec la mort, avec même des passages qui indiquent clairement que c'est son plan B si la vie devenait trop dure. Et pour moi, ça a été la parfaite illustration de la difficulté de se conformer aux normes sociales quand on est jeune adulte. Et chaque choix que Victoire va faire va impacter sa vie d'adulte et presque de manière irréversible en fait. Et je me demandais comment, en tant qu'autrice, vous avez fait ces choix pour elle. Et est-ce qu'en les faisant, vous imaginez l'impact que cela allait avoir sur le lectorat, notamment en vue des sujets assez graves qui sont abordés? Et je voulais vous remercier aussi pour ce texte et j'ai déjà hâte de le relire. Merci.
Vraie question, intéressante. Merci beaucoup Manon pour cette lecture. Mathilde Anzelin, est-ce que vous avez pensé à vos jeunes lectrices et lecteurs?
Alors, je voulais pas du tout que ce soit un livre de mise en garde. Moi, je voulais pas que ce soit ni un témoignage, ni un livre de mise en garde. J'avais vraiment à cœur de faire de la littérature, en fait. Et je pense que dès qu'il y a une tentative de mise en garde dans des œuvres, ça marche jamais. Enfin, moi, j'ai beaucoup vu Requiem for a Dream, Trainspotting, des films comme ça qui étaient un peu censés nous dire attention les enfants, voilà ce qui peut vous arriver. Et ça a au contraire, je pense, provoqué une forme de fascination chez moi. Donc, j'ai pas voulu avertir quiconque. Par contre, j'avais, c'est vrai, envie de m'adresser à des gens qui pouvaient se trouver dans ces situations, qui pouvaient se reconnaître. Et ça, je me suis dit que ça pouvait être une forme d'exutoire pour eux. En tout cas, moi, j'aurais aimé lire un livre comme ça à une certaine époque de ma vie.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, le mardi, on vous retrouve, Nicole Wulzer. Vous éclairez pour nous un aspect économique du monde des livres. Salut Nicole.
Bonjour Marie.
Vous parlez d'une population que vous avez baptisée les Globetrotters de l'édition.
Voilà. En fait, ils sillonnent la planète selon un rite extrêmement précis, celui des foires internationales du livre. Alors, entre le 1er janvier et fin décembre, ce petit club d'éditeurs, d'agents éditoriaux, de responsables des droits étrangers ou des ventes à l'export se retrouve d'abord à Delhi, puis à Taipei, ensuite à Vilnius, et là, du 13 mars, c'est déjà mieux, à Londres. Ensuite, ils fileront à Bologne fin mars pour un salon spécialisé sur la jeunesse, puis à Varsovie, à Pékin. En juin, exactement aux mêmes dates que Séoul, il faudra alors se dédoubler. Viendra ensuite, dans ce tour du monde, la plus grande foire internationale, celle de Francfort, qu'il ne faut absolument pas rater, en octobre, et dont je vous ai déjà parlé, avant de terminer l'année par Shanghai en novembre, puis la toute dernière, Guadalajara, au Mexique, en décembre. D'accord, leur bilan carbone atteint des sommets. Ils en conviennent tous.
C'est mal.
C'est mal. Mais cela reste le moyen le plus sûr pour conclure des accords de cession de droits de livres français avec des éditeurs étrangers. Ce petit club de Globetrotters est placé sous la houlette du Bureau international de l'édition française, le BIEF, le véritable moteur du business de l'exportation. Cette association d'éditeurs qui existe depuis plus de 150 ans et compte aujourd'hui 350 adhérents est largement financée par des fonds publics. Selon son directeur général Nicolas Roche, le BIEF est l'opérateur unique d'un stand France qui regroupe sous son ombrelle, les éditeurs hexagonaux dans tous les grands salons. Le BIEF organise aussi toute l'année en France et à l'étranger des rencontres avec des éditeurs internationaux. Et cette association gère aussi un centre de documentation précieux sur l'évolution des paysages éditoriaux dans de multiples pays.
Alors là, tout ce monde de l'édition se retrouve à Londres. Qu'est-ce qu'ils espèrent dans ce marché qui semble particulièrement difficile? On ne cesse de le répéter le mardi dans votre chronique, Nicole.
Absolument. Depuis ce matin, Marie, à la London Book Fair, qui draine quelques 25 000 professionnels pendant 2 jours, dans le hall principal du centre d'exposition L'Olympia, la délégation française regroupe un peu plus de 200 personnes sur le stand France. Deux catégories cohabitent. Ceux qui vendent des droits, mais aussi ceux qui viennent en acheter, trouver des livres qu'ils vont ensuite traduire en français. Chaque année, la tradition est respectée et les éditeurs français sont invités la veille pour une grande réception à la résidence de l'ambassade à Londres pour rencontrer leurs homologues britanniques.
Les petits plats dans les grands, j'imagine.
Absolument, tout simplement, parce que traverser la Manche pour un éditeur français n'est pas de tout repos. Le Royaume-Uni est particulièrement protectionniste et très peu tourné vers l'extérieur, qu'on en juge. Quand en France, 18% de nouveautés à chaque année, à chaque rentrée littéraire sont traduites, on ne compte que 6% de livres traduits au Royaume-Uni, et pire encore, 3% seulement aux États-Unis. Des chiffres qui en disent long sur le monde anglo-saxon et sur le peu d'ouverture culturelle au monde intellectuel qui n'est pas le leur, au point d'ailleurs où le BIEF a créé une filiale à New York, la French Publisher Agency, dirigée par Alice Tassel, pour essayer d'y soutenir l'édition tricolore et permettre que les auteurs français soient davantage traduits. Un des jobs de l'édition les plus convoité, mais honnêtement, c'est un travail de titan.
Qu'en est-il de la balance commerciale du livre, Nicole?
Si l'on prend les dernières statistiques douanières, le livre français s'est exporté en 2023 à hauteur de 709 millions d'euros, tandis que les importations de livres internationaux traduits en français se sont élevées à 962 millions et donc la balance commerciale était déficitaire de 253 millions d'euros. Nicolas Roche se veut beaucoup plus optimiste. Pour lui, l'édition française s'exporte plutôt bien. Elle est beaucoup traduite parce que les éditeurs se sont sérieusement professionnalisés depuis une quinzaine d'années. En 2023, près de 15 000 contrats de cession de droits et de contrats de coédition ont été signés avec des éditeurs internationaux, un résultat en hausse qui concerne très majoritairement trois segments de marché, la BD, les livres jeunesse et la littérature. À l'inverse, pour les importations, on a compté en 2023 près de 13 000 ouvrages traduits en français, l'anglais étant la première langue traduite vers le français, devant le japonais en raison des mangas, puis au même niveau, l'allemand et l'italien.
Alors même si vous avez parlé, ou puisque vous avez parlé d'un travail de titan, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui sont chargés de soutenir le livre français à l'étranger ?
Absolument. Et si le BIEF est le cœur du réacteur pour les affaires, l'Institut français est chargé de mettre en œuvre la politique culturelle extérieure de la France. Il intervient essentiellement comme incitateur de cession de droits et donc pour faciliter la publication d'environ 300 livres traduits en français chaque année. Selon Didier Dutour, le responsable du pôle livre et édition de l'Institut français, une centaine de personnes dans le monde s'y attellent, de près ou de loin. Là encore, la tâche est immense. De plus, la Villa Albertine, mise en place elle en 2021 pour soutenir la création française, est également mise à contribution grâce à des bourses ou des résidences d'auteurs dans une dizaine de villes aux États-Unis. Pour tenter de faire connaître les successeurs de Foucault, Deleuze et Derrida, eux qui avaient intégré les universités américaines dans les années 70 pour y insuffler la French Theory.
Merci beaucoup Nicole Vulser. On peut réécouter, vous relire même sur la page du Book Club Économie du Livre, franceculture.fr. C'était beau, comme vous avez parlé l'un et l'autre, Olmo et Mathilde Anzelin, de la rythmique des villes pour évoquer la géographie que vous avez donnée à vos deux romans. Le Book Club se termine par un grand jeu des pages musicales. On cherche la musique là où elle est, dans les textes. Et on termine avec un extrait de votre livre, Aden ou la transparence de l'air, Olmo. La devanture des délices était à la fois neuve et délabrée. C'est qu'un des fils d'Ibrahim avait mis un nouvel éclairage, rouge et doré, pour donner un coup de lustre à l'enseigne du restaurant, mais sans se soucier d'enlever l'ancien revêtement abîmé, ce qui donnait maintenant un air brinque-ballant à toute la devanture. Ibrahim était seul dans sa petite échoppe à écouter la radio. Il s'est levé en nous voyant entrer et nous a tendu sa main épaisse en souriant. Il faisait chaud. Un morceau d'agneau tournait autour de sa broche et rôtissait entre les surfaces du grill rougeâtre. « Je ne vois plus les jeunes. » Sans que nous l'ayons demandé, il nous a servi une salade tomate-oignon en vidangeant la moitié de sa harissa sur le pain du calot. En mangeant, je regardais la ville changer à l'extérieur avec l'avancée de la nuit. Les toits, à l'horizon, dans la descente de la rue, miroitait un peu de cette écume du soir dont le reflet bondissait en écho sur les éponges de tuiles plates, comme une note blottée qui rappelait le premier souffle d'Every Time We Say Goodbye de Chet Baker et que l'on entendait partir, mélancoliquement, en expirant, jusqu'au fleuve. Cette pâte bleue ricochait de toit en toit et disparaissait pour faire du mortier de ciel. Cet air poussiéreux que l'on avale sans le sentir, c'est celui qui apporte le spleen, qui se dépose d'abord au fond des rues, puis se met dans nos poumons sableux. Every time we say goodbye, every time we say goodbye. Allez, que chacun et chacune d'entre vous aille écouter la suite du morceau. Un grand merci Mathilde Anzelin d'avoir été avec nous pour parler de la saison des bêtises parues aux éditions Les Avrils. Un grand merci Olmo d'avoir été avec nous pour parler de Aden ou la transparence de l'air parue aux éditions du Nouvel Attila. C'était un plaisir. Au son aujourd'hui d'Ali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui prépare et pense les émissions avec moi, et particulièrement Louisotte aujourd'hui.